12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Les deux spectacles musicaux dont nous parlons ce midi s'inspirent tous les deux d'histoires vraies, celles de femmes qui ont voulu maîtriser, prendre en main leur destin individuel et destin d'artiste. D'abord, celle de l'écrivaine Colette dans un show chanté, raconté, dansé, effeuillé, puis celle du premier groupe de punk féminin londonien, The Slits, dans les années 70, premier groupe à obtenir le contrôle de leur image auprès de leur maison de disques.
Et on en parle avec vous, Laura Capel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, c'est votre première venue. Bienvenue dans l'émission, vous êtes critique au New York Times et professeur associé à la Sorbonne Nouvelle. Et bonjour à vous Céline Duchesnay.
Bonjour.
Vous êtes productrice à France Culture. Bienvenue à toutes les deux dans les Midi de Culture.
Nous commençons ce débat critique avec Musical Colette, coécrit par Cléo Seignat et Alexandre Zambeau. C'est jusqu'au 27 avril au Théâtre Tristan Bernard à Paris.
Première femme de l'histoire à recevoir des obsèques nationales, Sidonie Gabrielle Colette.
C'est ça que je vais laisser comme image aux générations à venir. Il faudrait pouvoir tout revivre. Non, je ne vais pas faire tout le spectacle avec l'accent bourguignon.
Musical Colette commence donc par la fin, le samedi 7 août 1954, 4 jours après sa mort, l'écrivaine a droit à des funérailles nationales. Ses archives vidéo sont projetées sur le devant de la scène, images en noir et blanc, voix de journaliste d'un autre temps. Quand surgit alors sur scène Colette, interprétée par Cléo Seignat, et qu'elle se met à commenter avec humour son enterrement. Je ne suis pas une gloire nationale, je suis bourguignonne. Quelle est moche cette médaille de la Légion d'honneur? Pourquoi la présidente de l'Académie Goncourt est présente alors que je n'ai jamais reçu ce prix? Et c'est donc avec humour que Gabrielle Sidonie Colette, dite Colette, va nous narrer sa vie. De sa naissance dans la belle bourgade de Lyon, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, ses premiers livres Claudine, signés du nom de son premier mari Willy, ses deux autres mariages, jusqu'à sa montée à Paris et ses performances de première femme mime, spectacle de musical dénudé qui seront interdits par la préfecture. Sur scène donc, Cléo Seignat chante, danse, joue Colette. Cléo Seignat est presque seule, puisque Claudine ne cesse de l'interpeller. Cléo Seignat est aussi elle même performeuse de 2024 qui s'interroge sur ce que Colette a apporté aux artistes d'aujourd'hui. Un spectacle où souffle un vent de fraîcheur et de liberté. Qu'en avez-vous pensé, Céline Duchesnay?
Alors, pour commencer, un vrai plaisir de retrouver Colette. Il s'avère que c'est une écrivaine que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, plaisir de découvrir Colette, plaisir d'avoir une sorte d'aperçu aussi sur sa vie, avec ce sentiment de faire découvrir Colette a un public plutôt jeune. En tout cas, moi, quand j'étais dans la salle, il y avait énormément d'étudiants ou de personnes qui avaient dans les 17-18 ans. Alors, j'ai appris après que Colette était au programme. Donc, voilà, première chose, c'est cette sensation de plaisir. Le plaisir aussi, quand même, de retrouver Cléo Seignat, que moi, je connaissais, mais plus sous un autre nom, sous le nom de Sélénée du Styx, puisque Cléo Seignat a un personnage d'effeuilleuse burlesque que j'avais déjà rencontrée. Donc voilà, la voir dans un rôle encore plus vaste. Alors elle est toujours là, en effet, avec ses éventails de plumes, avec son joli corps gracieux, mais avec aussi toute sa fougue et son entrain. Donc j'étais curieuse de voir ce qu'elle pouvait donner dans quelque chose d'encore plus large, puisque jusqu'à présent je l'avais vu ou dans des numéros de défeuillage, de striptease, mais très beau, rétro. Il y a un numéro de Cléopâtre que j'aime beaucoup, un numéro aussi où elle est en lune, où elle s'effeuille petit à petit, avec toujours de très jolis accessoires. Donc ce sont vraiment des numéros qui sont très esthétiques. Et la première chose que j'ai retrouvée avec grand plaisir d'elle, c'est ce visage très expressif. C'est comme si tout à coup on avait un visage qui venait des films muets, avec des yeux grands ouverts, avec des expressions qui peuvent parfois aller du côté du clown, une forme de dérision, qui, je trouve, allait parfaitement au personnage de Colette, puisque Colette a aussi fait beaucoup de pantomimes. Donc, il m'a paru tout à fait évident que ce personnage de Colette et ce personnage de Cléo Seignat devaient se retrouver sur scène. Donc, première impression, vraiment, c'est aussi face à cette fougue, cette vitalité, cette joie de vivre que dégage vraiment cette comédienne, artiste, danseuse,
chanteuse
aussi. Ce plaisir-là, et puis de se dire qu'elle est quand même seule en scène, parce qu'elle joue un certain nombre de rôles, et c'est elle qui, toute seule, tient le spectacle de bout en bout. Donc bravo pour cette énergie.
Laura Capel, est-ce que vous aussi, cette performance d'artiste totale, si je suis bien ce que vient de me dire Céline Duchesne, vous a plu, vous a amusé, vous a plu, tout simplement?
Mais oui, il est réjouissant ce spectacle, enfin je trouve en tout cas. Pour moi, c'est vraiment la rencontre entre trois femmes. Alors évidemment, Colette, bien sûr, c'est le sujet de cette pièce. Cléo Seignat, dont on a parlé, artiste multiforme, qui est capable de passer de la danse au chant, qui est une vraie triple threat à l'américaine, c'est-à-dire une triple menace, comme on dit à Broadway, qui est capable de tout faire. Et aussi Léna Brébant, la metteuse en scène, dont on connaît les talents pour mettre en scène la joie de vivre, en fait, enfin réellement, ce qui est un talent assez rare à l'heure actuelle. Moi, j'avais rencontré Léna Brébant et Cléo Seignat ensemble, en fait, au moment où elles avaient joué ensemble, créé ensemble un spectacle qui s'appelait Cabaret sous les balcons, qui était le premier spectacle joué à la sortie du premier confinement, il y a 4 ans maintenant. C'était dans un EHPAD à côté de Chalon-sur-Saône, et l'émotion de voir Cléo Seignat, qui donc était dans des numéros de cabaret déjà à l'époque, sur scène, dans une mise en scène de Léna Brébant, face à un public qui avait été privé de contact social, il y avait quelque chose de magique. Et j'ai l'impression que Léna Brébant a trouvé là une espèce de source que maintenant dans laquelle elle va puiser pour ses spectacles. On a vu Comme il vous plaira, l'excellente version de Shakespeare qu'elle a mise en scène l'année dernière. Je trouve qu'avec ce musical Colette aussi, elle est très à l'écoute de ce que cherche Cléo Seignat, de ce qu'elle représente en tant qu'artiste, pour tisser des liens avec Colette, avec Claudine aussi, donc qui hante un petit peu Colette pendant tout le spectacle, qu'on voit diffractée sur des écrans vidéo derrière elle.
Qui va l'interpeller, il y a des discussions, des dialogues, des ping-pong entre elles sur scène qui sont assez intéressants.
Exactement, il y a une mise en scène qui en fait est très complexe pour un seul en scène. Il y a beaucoup de changements de costumes, il y a des numéros musicaux, dansés, il y a ce dialogue avec la vidéo qui est constant. C'est un spectacle pas facile et qui est tenu d'une manière, comment dire, qui semble très léger, en fait, enfin, dans sa manière
ça
d'être.
Ça semble facile, pour
voilà.
te dire.
Alors qu'on sait le travail qu'il y a derrière, l'artisanat qu'il y a derrière.
Qu'est-ce qu'on dit du personnage qui est montré? Alors Colette, on la connaît effectivement en tant qu'écrivaine, on la connaît aussi par ses positions fortes d'artiste, de femme dans ce début du XXe siècle. Je la présentais aussi comme la première femme mime qui a osé se mettre nue dans des spectacles qui ont ensuite été interdits. Voilà, est-ce que tous les chapitres, tous les tableaux qui sont proposés sont fidèles au personnage de Colette qu'on connaît, ou est-ce qu'on apprend des choses, Céline Duchesne, qui vous ont surprise?
Non, je crois qu'il y a quand même vraiment un parti pris qui est de parler de Colette, la femme amoureuse, je dirais avant tout, et de Colette et de son corps de femme, bien sûr. Après, il y a tout un tas d'autres éléments qui concernent Colette qui ne sont pas tellement mis en valeur, mais c'est normal face à un personnage qui est aussi vaste, aussi large. Je ne sais pas combien de temps dure le spectacle, je crois que c'est 1h30 ou 18, peut-être même un peu moins. Donc comment voulez-vous, en si peu de temps, parler de quelqu'un qui représente autant de choses, de paradoxes? Il y a eu tant de par exemple, le côté femme écrivaine n'est pas énormément développé. Elle en parle un petit peu, bien sûr, on le sait, mais c'est pas ce qui est mis en valeur. Je crois que vraiment ce sur quoi elles se sont focalisées, c'est la femme, le corps qui se dénude, comment est-ce qu'on peut percevoir un corps qui se dénude, et puis la femme amoureuse qui quand même va se marier 3 fois, qui aura une aventure, pas une aventure, qui va vivre avec cette fameuse comtesse Missy, avec qui elle va faire le rêve d'Égypte, qui va être donc montré au Moulin Rouge, et qui va faire absolument scandale, puisque Missy est sur scène habillée en homme. On rappelle qu'on n'a pas le droit, la loi interdit de s'habiller en homme. Missy arrive en homme, et puis Colette est dans un sarcophage en momie, elle sort de son sarcophage, et elles s'embrassent toutes les deux. C'est un tel scandale que le spectacle va être interdit, je crois qu'il va pouvoir être joué 2 fois. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on voit sur scène. Alors on voit pas Missy sur scène, mais qui sont évoqués sur scène. Et peut-être, et ce serait là où je pourrais avoir une réserve, Colette est vraiment montrée comme une sorte de vecteur d'énergie, d'incarnation de la liberté, ce qu'elle est, parce qu'il faut aussi rappeler que ce qu'elle a réussi à faire à une époque où les femmes étaient considérées comme des mineures à vie, c'est tout de même assez exceptionnel. C'est vraiment un modèle en soi. Mais on gomme quand même un petit peu tous les paradoxes de Colette, parce que Colette n'était pas que sympathique, n'était pas que femme libre. En tout cas, si elle a été libre, ça s'est fait quand même aussi au détriment de d'autres personnes. Je pense notamment à Missy, avec qui après elle a pu être aussi très dure. Je pense aussi à sa fille. Et je crois, moi, que la liberté de Colette, sans être une grande spécialiste de Colette, mais j'ai beaucoup lu notamment les lettres qu'elle avait écrites à sa fille ou les lettres qu'elle a aussi écrites à Missy, c'est fait de manière extrêmement égoïste. C'était la liberté à tout prix, et peu importe s'il y a des gens qui vont être piétinés. Donc ça, c'est pas du tout montré, même s'il y a un petit passage dans le spectacle où on dit, est-ce que Colette, on peut dire que Colette est féministe? Pas complètement, puisqu'elle n'était pas pour le fait que les femmes puissent voter, elle était assez dure avec les suffragettes, mais à côté de ça, elle a pu, dans les articles, parce qu'elle a eu aussi une phase journaliste, elle a pu écrire des articles qui étaient vraiment qui mettaient en valeur le corps des femmes et qui étaient pour la liberté du corps des femmes. Donc c'est tout le côté paradoxal de Colette qui est moins montré, je trouve, dans ce spectacle.
Laura Capel, ça s'explique peut-être aussi parce que c'est une forme d'hommage, c'est pas une biographie exhaustive, on n'est pas face à un spectacle biopic, on est face à cette rencontre entre cette jeune comédienne Cléo Segna et Colette, et on sent qu'elle veut effectivement en montrer un personnage qui l'a inspirée aujourd'hui, l'artiste qu'elle est.
Oui, tout à fait. C'était un petit peu le projet annoncé du spectacle aussi, c'est-à-dire de mettre en perspective, d'une part, la vie de Colette et son expérience au Music Hall, et celle de Cléo Segna, qui, peut-être le rappeler, en fait, s'est formée comme comédienne dans une école de théâtre. À la sortie de son école de théâtre, a décidé de changer complètement, d'une certaine manière, de choisir un parcours un petit peu inhabituel pour une comédienne, d'aller vers les feuillages burlesques, enfin vers le music hall. C'est assez rare aujourd'hui. Et finalement, le spectacle tire son épingle du jeu globalement sur la manière dont il met en perspective justement le rapport de Colette à ça. Et il y a une scène où effectivement Cléo elle-même parle d'elle, en fait, c'est-à-dire parle de son rapport à l'effeuillage, parle de son rapport au burlesque. Personnellement, j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin sur ce point, parce qu'il me semble que là, il y a justement un endroit de vulnérabilité très intéressant où entendre une artiste aujourd'hui, par le prisme de Colette, penser ce que c'est de se dénuder sur scène, par exemple, est-ce que ça peut être considéré comme féministe? Est-ce que c'est nécessairement une forme de réification du corps? Enfin, comment le mettre en perspective? Je pense que Cléo Segna et Léna Bréban auraient pu aller plus loin sur ce point pour nous en dire un peu plus et aussi pour, d'une certaine manière, réhabiliter le music hall de cette manière. Parce qu'en fait, le music hall, à l'époque de Colette, c'est un lieu d'expérimentation. Mmh. C'est un lieu très très riche. C'est pas du tout un lieu de pur divertissement où il se passe des choses pas très intéressantes sur le plan théâtral. Loin de là. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'une certaine manière. Mais on l'ignore trop souvent.
Céline Duchesnay, est-ce que cette interrogation de l'artiste de 2024 sur scène, vous aussi, vous a intéressé? Parce qu'effectivement, on l'a dit, elle joue donc Colette, elle joue Claudine dans ses écrans qui discutent, mais elle joue aussi son propre rôle sur cette scène.
Oui, et ben moi, je rejoins Laura tout à fait sur ce point-là aussi. C'est que c'est un petit peu rapide, je trouve. Je crois qu'à un moment donné, elle dit aujourd'hui, on confond trop l'érotisme et la pornographie. Elle s'interroge aussi sur le corps nu, en disant que montrer un corps nu sur scène, c'est pas pire que de voir des tableaux avec des personnes dénudées au Louvre. Elle fait un certain nombre de parallèles. Moi, j'ai vraiment gardé à l'esprit que ce spectacle était aussi beaucoup pour des jeunes générations, parce qu'il y a notamment tout ce vocabulaire. Il y a des parallèles qui sont faits par rapport à Instagram, par rapport à des stars
aux réseaux sociaux.
Donc on a le sentiment qu'elle veut montrer la modernité de cette femme en utilisant aussi des outils de notre société d'aujourd'hui. Mais en effet, comme ce sont moi aussi des questions qui m'intéressent beaucoup, j'aurais aimé peut-être qu'elle aille un petit peu plus loin justement par rapport à ce regard qu'elle a sur le fait de se dénuder. Parce que si vous ne saviez pas, par exemple, qu'elle avait ce passé entre guillemets burlesque qui n'en est pas un, puisqu'elle continue, je pense, à faire de l'effeuillage. Je crois qu'assez récemment, même, elle jouait un spectacle avec les Sœurs Papilles, où elle faisait un spectacle au Belle Poule, qui est un ancien bordel, qui n'est évidemment plus un bordel aujourd'hui. Mais elle avait tout un spectacle concert sur le principe des maisons closes. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas trop s'en douter. Si ce n'est que quand elle arrive avec ses éventails de plumes, on est un peu estomaqué, c'est beau. Donc on aurait pu s'attendre, en tout cas moi, je m'attendais à ce que sur, en effet, ce point-là, elle développe un petit peu plus et qu'elle affirme peut-être encore plus le côté, peut-être même tout simplement esthétique de ça et les interrogations sur le féminisme, en effet.
Laura, pour terminer.
Oui, c'est vrai que c'est aussi une tentative, je pense, à un endroit d'hybridation entre public et privé. C'est-à-dire, c'est vraiment un spectacle produit par l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, par une scène nationale qui se joue à Paris dans un théâtre privé, le théâtre Tristan Bernard, qui est à cet endroit de chercher, je pense, une pédagogie, en fait, comme Céline le dit extrêmement bien, et en même temps d'aller vers une recherche peut-être qui va, je pense, à terme permettre à Cléo Seignat de continuer à mettre en perspective son expérience dans d'autres domaines pour le bénéfice, en fait, du théâtre tout public.
Oui, parce qu'elle a même ce côté très cabaret, je trouve, d'aller chercher les deux personnes dans le public, oui, de réagir avec eux, et avec un sens de l'improvisation que j'ai beaucoup apprécié, puisque en fonction, elle choisit un homme qui va incarner son futur mari, le futur mari de Colette, et en fonction du métier de la personne, elle s'adapte, elle rebondit dessus, et elle joue avec le public. Et ça, c'est quelque chose qui vient du cabaret, et on sent que qu'elle y tient énormément aussi à ça.
Et que c'est maîtrisé, effectivement.
Oui.
Musical Colette, coécrit par Cléo Seignat et Alexandre Zambeau, mise en scène par Léa Bréban. Spectacle jusqu'au 27 avril, les jeudis, vendredis et samedis, au théâtre Tristan Bernard à Paris.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de Punk ou Comment nous ne sommes pas devenus célèbres de Rachel Arditi et Justine Henman. C'est jusqu'au 6 avril à la Scala Paris.
Je veux être une rockstar comme Patti Smith.
Alors comme ça, tu montes un groupe?
Ouais, je monte un groupe.
Ça va s'appeler comment ce groupe?
La Clash.
Moi aussi, je monte un groupe.
La Clash. Tu joues quoi?
De la guitare.
Quoi comme guitare?
C'est une belle guitare. Let's go. On va monter un groupe ensemble, Palmolive.
Un groupe? Un groupe de quoi?
Un groupe de punk.
Vous avez un groupe?
Ouais. Ouais, maintenant, on en a un.
C'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, à ceux qui étaient jeunes dans les années 70 et aux jeunes d'aujourd'hui qui seraient en recherche d'héroïnes, de figures musicales féminines. Punk ou Comment nous ne sommes pas devenus célèbres raconte l'histoire de quatre adolescentes britanniques en pleine crise existentielle, en pleine crise économique et en pleine crise sociale qui vont donc choisir la musique pour crier au monde entier leur envie de vivre et d'exister. On est en 1976 à Londres, on assiste à leur rencontre. Viv Albertine, Harry Up, Palmolive et Tessa Polit pour leur pseudo vont donc former durant 4 ans le premier groupe de punk féminin, The Slits, les Fentes en bon français. Leur point commun, une adoration sans limite pour Patti Smith, une folle envie de faire de la musique tout en apprenant à en faire pendant qu'on en fait, et surtout l'envie de maîtriser leur image et leur destin. On s'attache à ces personnages durant une heure et demie, mais aussi à la mère d'Harry Up, Nora Foster, incarnée par Rachel Arditi. On alterne entre rire et émotion, entre dialogue et rives enflammées, car la musique est live durant cette heure et demie donc, donnant à ce spectacle des airs de concert. Laura Capel, qu'en avez-vous pensé de cette expérience live, musicale et historique?
C'est un vrai concert et j'avoue en toute sincérité que c'est ce spectacle qui m'a fait découvrir les sites, en fait.
Moi aussi.
Moi, je l'ai découvert au Festival Off d'Avignon l'année dernière où il remplissait les salles tous les jours. Il est à la Scala Paris maintenant, après la Scala Provence, et on retrouve cette même énergie. C'est assez impressionnant ce que Justine Henneman, donc, qui a coécrit avec Rachel Arditi, a réussi à construire en mélangeant une playlist qui est quand même assez large. On est sur grosse quinzaine de chansons de cette période principalement, jouées en live. Toutes les actrices et le seul acteur, l'unique acteur qui est avec eux, joue, chante, se démène sur scène. Enfin, c'est un spectacle, là aussi, en fait, total, de bien des manières. Et ces Slits, elles sont passionnantes, en fait. Je trouve que la Scala, d'ailleurs, ne les vend pas très bien en les décrivant sur son site comme les petites sœurs des Sex Pistols et des Clash. C'est peut-être un petit peu plus que ça, en fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est un groupe féminin punk qui est né en 1976, qui a une vie qui, certes, un petit peu une étoile filante, peut-être, qui dure quelques années à cette époque-là, avant d'être recréée dans les années 2000, mais qui réunit des personnalités qui ensuite vont avoir des carrières très diverses, très impressionnantes. Et là, il y a un vrai travail sur la distribution, je trouve, dans ce spectacle, qui est vraiment réussi parce qu'on a des personnalités très différentes, très marquées, qui arrivent à tenir les personnages, la musique à la fois. voulais parler tout de suite de Charlotte Havet en Hurry Up, qui est un espèce de feu follet intenable sur scène.
C'est impressionnant l'énergie qu'elle a.
Qui prend des poses improbables, qui se démène. Enfin, c'en est presque trop par moment, mais le contraste avec les autres personnages marche suffisamment bien pour que ça tienne, en fait. Face à elle, donc, on a Palmolive, qui a une énergie beaucoup plus butch, d'une certaine manière, d'origine espagnole, qui vit aussi pour la politique et pas seulement pour la musique. On a Vive Albertine et Tessa Polite, qui pour moi est un petit peu le cœur mélancolique du spectacle. Alors Kim Verschuren dans le rôle est magnifique, enfin beaucoup plus sur un ton beaucoup plus mesuré que les autres, mais parce que elle met en jeu vraiment les traumatismes de cette jeune fille qui a été jetée dehors par ses parents après avoir révélé qu'elle était lesbienne, qui se drogue, qui fait une overdose au milieu du spectacle, qui est joliment mise en scène par une apparition de Patti Smith qui vient lui parler, justement. Quand elle chante, par contraste avec les autres, elle a une reprise très douce de Anarchy in the UK, également Should I Stay or Should I Go, qui vient justement au moment de l'overdose. C'est comme une autre entrée dans le spectacle et cette manière de contraster les énergies arrive à faire tenir un spectacle qui aurait pu déborder sur le plan musical et qui, pour moi, globalement, tient vraiment très bien la route.
Céline Deschenais, les personnages et la distribution vous ont fait rester dans la salle, j'imagine.
Ah, complètement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie qui se dégageait de ce spectacle, ce qui fait que c'est vraiment un spectacle concert, en effet, puisque d'ailleurs, sur le dernier morceau, tout le monde est debout en train de chanter, danser, et on sort de cette pièce théâtre-concert avec, je sais pas, on se sent capable de tout faire. Parce que je crois qu'aussi qu'un des grands messages du spectacle, c'est qu'il faut oser. C'est le principe du punk. Finalement, vous ne savez pas jouer de la guitare, et ben c'est pas grave, vous prenez une guitare et vous commencez à jouer. Vous ne savez pas chanter, et ben tout le monde s'en fiche. Vous prenez un micro et vous commencez à chanter. Et tout au long du spectacle, on voit des quatre très jeunes filles, donc la plus jeune à 14 ans, l'autre à 20 ans, qui n'ont pas peur de oser. Et moi, ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Il y a même un moment qui est assez émouvant où elles sont en danger et chacune se dit, mais quelle est la chose dont je suis le plus fière? Et chacune dit, bah voilà, moi, j'ai réussi à dire non à un professeur qui, en gros, avait la main plus que baladeuse. Moi, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela. Donc, j'ai trouvé que face à des destins qui sont, pour certaines, très lourds, vous l'avez rappelé, Laura, pour d'autres, qui sont tous assez difficiles, parce que ce sont des filles qui ont toutes été confrontées ou à des problèmes sexuels ou des problèmes de société qui viennent de milieux, pour certaines d'entre elles, qui sont extrêmement défavorisées. Alors il y en a une qui vient d'un milieu plus aisé, mais qui est dans une telle révolte. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très fort, et de voir que chacune, avec son parcours, avait cette espèce de rage de vivre et de vouloir chanter à tout prix. Je veux être une rockstar, je veux chanter, c'est chanter ou mourir. Il y a quelque chose de l'adolescence qui est très beau aussi, qui est de ce discours absolutiste jusqu'au boutiste, quoi qu'en pensent les autres, je le ferai. Et moi, vraiment, j'ai reçu cette énergie de manière exponentielle. Je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être la reine du monde, mais je crois qu'on était tous garçons ou filles dans la salle, roi et reine du monde, parce qu'on avait reçu cette énergie.
C'est pas la première fois que Justine Henneman et Rachel Arditi travaillent ensemble pour écrire des spectacles. Elles avaient déjà adapté ensemble deux romans de Clémentine Beauvais. Là, elles se sont inspirées, Laura Capel, d'un livre de Vive Albertine elle-même, un livre autobiographique de fringues, des musiques et de mecs. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette ambiance de ces années 70 à Londres? Est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est la présence de ces musiques qu'on connaît, qui sont jouées en live devant nous, réarrangées aussi? Voilà, est-ce qu'il y a une forme de nostalgie? Qu'est-ce qui fait qu'on y est?
En fait, il y a un personnage qui dit à un moment dans le spectacle « Les détails racontent bien les histoires ». Et je trouve qu'en fait, on entend là un petit peu la philosophie, en fait, des deux autrices. C'est-à-dire qu'elles arrivent à capter une atmosphère, à nous parler de Londres, de l'atmosphère sociale et politique très lourde, de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher.
Avec ce néon, quand même, qui représente Margaret Thatcher.
Exactement.
Qui clignote de temps en temps pour nous le rappeler. Ouais.
Tout à fait. Elles arrivent à nous en parler avec des petits détails glissés ici et là qui ne pèsent pas pas lourd sur l'histoire dans son ensemble. Donc, on a comme des espèces d'esquisses, mais qui sont suffisamment précises à chaque fois pour fonctionner. Bon, alors, j'ai réalisé a posteriori que bon, la pièce prend quelques libertés avec la réalité historique. Je pense que, par exemple, ça aurait pas été inintéressant de souligner que certaines des artistes concernées avaient déjà joué dans d'autres groupes, n'arrivent pas forcément... comme des néophytes complètes, enfin de la batterie, une fois qu'elles rejoignent les Slits, et ont une carrière derrière. Mais la simplification de l'histoire, en tout cas, sert le propos, on va dire. Pour moi, j'ai une petite réserve sur la fin de la pièce où on part vraiment pour clôturer un petit peu leurs histoires, où on les présente chacune un petit peu comme dans leur vie d'après, mais de leur vie beaucoup de mère, de famille, etc. Il y a un côté un petit
elles
peu...
Se sont rangées.
Elles se sont rangées après, elles ont eu des enfants, etc., avec une mise au centre de l'histoire féminine de la maternité. Ce qui est un choix, mais en fait, quand on sait que les Slits ont été reformés par deux des membres dans les années 2000, qu'il y a quand même des histoires artistiques très intéressantes qui se sont nouées, moi, j'aurais voulu un petit peu plus de ça à ce moment-là, personnellement.
Céline Duchesnay, vous étiez dans l'ambiance, on nous l'avait dit, hein, vous étiez debout sur le siège, j'en suis même quasiment certain.
Il
y a une esthétique punk, il y a des costumes, il y a les perruques, enfin tout fait qu'on y est. Aussi, il y a cette espèce de décor un peu industriel avec des échafaudages, les flycats. On est et dans une salle de concert et presque dans le londonien, le Londres un peu industriel qu'on peut s'imaginer.
Oui, alors pas du tout dans une reproduction avec des décors qui feraient londonien. Je trouve que le décor est finalement assez minimaliste, mais à nouveau, je rejoins Laura, c'est le détail qui fait sens à un moment donné, par exemple, quasiment au tout début du spectacle, elles sont face à Big Ben. Big Ben, on ne verra jamais Big Ben sur scène, mais le simple fait de voir leurs yeux regardant Big Ben avec ce rêve qui est tu vas voir, je suis tellement concentrée que je vais être capable par ma simple volonté d'arrêter l'horloge de Big Ben. Et paf, l'horloge s'arrête. Alors, on apprendra après que c'est parce que Big Ben était en travaux. Mais pour moi, c'est un exemple typique de ce qui n'est pas montré, mais qui est perçu d'une autre manière, c'est-à-dire à travers le regard plein de paillettes et de rêves de ces jeunes filles. Et c'est aussi cette idée que quand on manque de rêves dans la vie, eh ben, il s'agit de se le créer. Et ça, c'est quelque chose qui est très joli.
Et comme tout à l'heure, il y a aussi l'interrogation sur le corps des femmes, puisque leur première couverture de premier disque, elle pose nue. Et ça aussi, c'est interrogé en un mot, Laura Capel.
Oui, il y a une tentative de retrouver cette liberté-là de ce point de vue qui, je pense, marche très bien avec les actrices qui ont été choisies. Voilà, vraiment un spectacle qui me semble mériter sa place, ne serait-ce que pour la joie qu'il procure.
Punk ou comment nous ne sommes pas devenus célèbres de Rachel Arditi et Justine Henneman, c'est jusqu'au 6 avril à la Scala Paris, le 30 avril au Théâtre Simone Signoret de Conflans-Sainte-Honorine et le 27 mai au Festival Théâtral de Quoi la Forêt dans la Somme. Merci à toutes les deux, Laura Capel, on vous lit dans le New York Times, Céline Duchesnay, on vous écoute régulièrement sur France Culture et on vous retrouve ce soir au Transfo, le Centre Culturel d'Emmaüs à Paris avec Jean-Luc Vernat. Le débat est à réécouter sur l'application Radio France.